France Musique. Europe 1720, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, soyez les bienvenus dans ce tour d'Europe des années 1720 que nous allons entreprendre durant cet été. De Albinoni à Zelenka, de Bach à Vivaldi, de Couperin à Telemann, de Handel à Scarlatti, nous croiserons les compositeurs qui ont construit cette période si riche du baroque finissant. Un baroque qui voit triompher l'opéra, la cantate, la suite, le concerto, la sonate. Un baroque qui va s'achever dans une vingtaine d'années, mais dont les dernières lueurs ressemblent davantage à un feu d'artifice qu'à un crépuscule. Première étape, les goûts réunis.
Thank you.
L'Orfeo Blazer Ensemble interprétait des extraits de cette ouverture pour deux cordes, deux hautbois, basson et cordes en fa majeur de Georg Philipp Telemann. Ouverture qui signifie chez les compositeurs allemands suite, c'est-à-dire une référence donc à la musique française, la suite étant cette succession de danses stylisées, le plus souvent précédée d'une ouverture qui débute de façon majestueuse, comme dans les opéras de Lully. Telemann, comme ses compatriotes Bach et Händel, ont composé des suites pour différents instruments et pour orchestre, et étaient très ouverts à la musique française. Puisque cette première étape de ce Tour d'Europe des années 1720 s'intitule « Les goûts réunis », il nous faut maintenant un deuxième goût, puisque nous avons le premier qui est le goût français. L'autre courant qui influençait alors la musique en Europe, et ce depuis la fin du XVIIIe siècle, venait de l'autre côté des Alpes, dans la patrie du baroque, l'Italie.
Thank you.
Franck de Bruijn au hautbois, l'Academy of Ancient Music dirigée par Christopher Hogwood. C'était le concerto pour hautbois opus 9, numéro 2 de Tommaso Albinoni, une œuvre publiée à Amsterdam en 1722. Albinoni, contemporain de Vivaldi, vénitien comme lui, qui va œuvrer pour la diffusion du concerto soliste à cette époque, des concertos pour violon, pour hautbois, comme celui que nous venons d'entendre, bien sûr, mais aussi pour d'autres instruments tels la trompette, la flûte, le basson. La France d'un côté, l'Italie de l'autre. Les querelles esthétiques font rage au début du XVIIIe siècle, notamment en France, puisque ce pays résiste contre l'empire de la musique italienne, faisant déjà jouer une exception culturelle. En 1702, à Paris, paraît en effet le parallèle des Italiens et des Français en ce qui regarde la musique et les opéras de l'abbé François Ragenais, qui lui est favorable à la musique italienne, malgré des réserves, mais il déplore dans la musique française le doux, le facile, ce qui coule, ce qui se lit, tout y est sur le même ton. Lui répond deux ans plus tard, Jean-Laurent Lecerf de la Viéville, dans « La comparaison de la musique française et de la musique italienne ». Il explique que « toujours du brillant, de la vivacité, ni justesse, ni prudence, des airs engageants, une envie perpétuelle de plaire à tout le monde ». Le naturel d'un côté, l'artifice de l'autre, on a compris. En 1724, François Couperin va essayer de concilier ces deux extrêmes en faisant paraître les goûts réunis ou nouveaux concerts suivis du Parnasse ou l'apothéose de Corelli. Il écrit « Le goût italien et le goût français ont partagé depuis longtemps la République de la musique. À mon égard, j'ai toujours estimé que les choses qui le méritaient, sans exception d'auteur, ni de nation. » Corelli était mort en effet en 1713 à Rome. Il a été un modèle pour toute l'Europe par ses recueils de sonates et de concertos grosso qui ont un immense retentissement grâce à une large diffusion des partitions. Je vous propose d'entendre tout de suite de François Couperin le Parnasse ou l'apothéose de Corelli.
Thank you.
Amandine Beyer au violon et l'ensemble Li Incogniti, c'était de François Couperin, le Parnasse ou l'apothéose de Corelli. L'année suivante, en 1725, Couperin composera une apothéose de Lully de façon à réunir ses musiques françaises et italiennes qui se disputaient, comme il l'écrivait, la République de la musique.
Europe 1720, Philippe Venturini, c'est l'été sur France Musique.
Vous écoutez France Musique et nous poursuivons ensemble cette visite de l'Europe des années 1720. Si l'époque est alors à la synthèse dans le domaine de la musique instrumentale, dans le domaine de l'opéra, l'Italie impose définitivement son empreinte. Cet opéra italien, ou plus précisément napolitain, l'opéra seria, c'est-à-dire sérieux, avec sa forme régulière de succession de récitatifs et d'airs d'a capo, met les chanteurs au premier plan et en fait de véritables vedettes. En plus des compositeurs italiens actifs dans leur pays, tels Alessandro Scarlatti, Leonardo Vinci ou Leonardo Leo, on trouve aussi des compositeurs italiens dans les principales cours et villes européennes. Je pense notamment à Giovanni Battista Bononcini qui sera à Londres auprès de Handel. Handel, un Allemand qui impose en Angleterre l'opéra italien, ou Antonio Caldara, vénitien comme Vivaldi et qui, comme lui, mourra à Vienne. Caldara, un des plus importants compositeurs de son temps.
Thank you.
Le contre-ténor Valère Sabadus dans le rôle de la nymphe Nigella, l'ensemble Nuovo Aspetto dirigé par Michael Ducker. C'était un extrait de la pastorale Nigella et Tirsi d'Antonio Caldara, pastorale créée à Vienne en 1726. Nous avons commencé ce premier tour d'horizon de l'Europe des années 1720 avec un compositeur allemand, Telemann. Je vous propose de le terminer avec un autre allemand, aujourd'hui bien plus célèbre et admiré, ce qui était le contraire à l'époque, compositeur allemand qui a su faire la synthèse, lui aussi, des styles italiens et français dans une musique qui n'appartient qu'à lui. Je veux bien sûr parler de Bach. S'il n'a pas voyagé, à la différence de Telemann et de Händel, Bach a visité l'Europe en lisant les partitions, celles de Vivaldi, de Caldara, de Couperin, de Grigny. Il laisse des suites anglaises, françaises, des partitas, des concertos et des sonates en trio. Dans ses sonates en trio pour orgue, Bach organise les échanges entre les trois voix, c'est-à-dire les deux mains et les pieds, dans un esprit éminemment concertant. Thank you. Michel Chapuis à l'orgue Andersen de l'église Notre Sauveur de Copenhague interprétait la sixième des six sonates en trio pour orgue de Jean-Sébastien Bach. C'est donc en compagnie de Bach que se referme ce premier volet consacré à l'Europe des années 1720 et intitulé « Les goûts réunis ». La semaine prochaine, nous poursuivrons la visite et nous demanderons si la musique restait baroque ou si elle prenait des inflexions rococo. Il y avait aujourd'hui à la réalisation David Travailleur, à la technique Stéphane Poitvin, attaché de production Annick Aumier. Vous écoutez France Musique, tout de suite nous retrouvons Marina Chiche et Mon cœur est un violon.
À réécouter sur francemusique.fr.